Les deux femmes se rencontrent lors de réunions où Myriam se fait remarquer par sa générosité. Alors que je lui demandais si elle avait toujours été aussi soucieuse des autres, elle me répondit qu'elle n'était devenue cette femme que récemment, depuis que dans sa vie quelque chose l'avait radicalement changée. Pendant des années, me dit-elle, j'ai vécu une très profonde dépression. Je n'avais plus d'envie ni de désir. La force de vie m'avait quittée et je renonçais même à sortir de chez moi ou à rencontrer qui que ce soit. J'étais incapable de me préparer à manger, encore moins de nourrir les autres. Mes enfants désespéraient et tentaient de me redonner goût à l'existence. Myriam était drôle et légère. J'avais du mal à croire qu'avec un tel atout, elle ait porté tant d'années le poids de ce qu'elle racontait. Elle changea soudain de visage et, avec un petit sourire un peu enfantin, elle murmura à mon oreille sur le ton de la confidence. À cette époque, une seule chose m'intéressait, quelque chose qui commença à me passionner et qui devint mon seul et unique centre d'intérêt. J'y consacrais peu à peu tout mon univers mental, toute mon activité intellectuelle. Elle poursuivit en articulant lentement comme pour ménager son effet. Je me suis passionnée pour mes funérailles. Myriam avait pendant plusieurs années entrepris de planifier ses obsèques. Elle avait d'abord contracté un plan en accord avec une maison funéraire, signé des papiers, paraphé des documents. Mais ce que ce contrat prévoyait ne lui semblait pas assez détaillé. On y précisait les volontés du disparu, son souhait d'un office religieux ou non, le choix du cercueil, les bouquets, les musiques. Mais Myriam avait bien d'autres exigences. Elle se mit à rédiger tout ce qui semblait essentiel à sa cérémonie de départ. Comment la salle d'exposition serait arrangée, comment les chaises devraient être disposées. Avec le temps, elle savait qui se joindrait à la cérémonie et où chacun prendrait place. Elle avait même affiné l'enchaînement des différentes musiques. Elle avait choisi les portraits à disposer et qui prendrait la parole et dans quel ordre. À son grand regret, elle ne pouvait dicter le contenu des horizons funèbres des uns ou des autres. Mais si elle l'avait pu, elle l'aurait fait. Elle aurait même écrit sa propre nécrologie. Bien entendu, l'annonce à faire paraître dans la presse était rédigée, ainsi que la liste des numéros de téléphone à contacter préparée. En bien des occasions, cette obsession avait déclenché de violentes disputes familiales. Ses enfants et petits-enfants la suppliaient de mettre fin à cette planification. Quand ils lui reprochaient ce zèle macabre, elle affirmait que tout cela était dans leur intérêt, et uniquement dans leur intérêt, pour leur éviter des décisions difficiles et leur épargner le moindre dilemme en un moment où l'émotion les submergerait. Tout cela n'était autre que du dévouement maternel, de l'altruisme pré-mortem. Elle tentait de relativiser son obsession, mais au fond, elle le savait bien. Quelque chose d'autre était en jeu dans cette programmation détaillée d'un événement auquel, par définition, elle ne pourrait pas assister. Cette planification détaillée trahit souvent le refus de reconnaître ce dont il est question en vérité, la fin du contrôle sur notre vie. L'organisation de la mort raconte d'abord et avant tout son refus de l'accepter, et le refus d'une acceptation que la vie appartient aux vivants. Par une chaude après-midi d'été, Myriam devait faire du shopping avec sa fille. Myriam n'était pas sûre que ce soit une bonne idée, mais sa fille insistait. Myriam se prépara et trouva en bas de chez elle le taxi prévu. Mais sa fille n'était pas dedans. J'ai l'adresse du lieu où je dois vous conduire, lui dit le chauffeur. Un peu contrariée, elle s'aperçut qu'il ne la conduisait pas au magasin prévu, mais devant un immeuble qu'elle connaît bien, la maison funéraire. Myriam se demanda pourquoi sa fille l'avait conviée en un tel endroit. Mais elle vit un écriteau indiquant que la cérémonie du souvenir allait débuter et le nom de la personne honorée y serait gravé. C'était le sien. Myriam entra dans la chapelle. Elle entendit les musiques qu'elle avait choisies. Il y avait des portraits d'elle bien éclairés, de gros bouquets de fleurs. Les invités lui tournaient le dos. Myriam reconnut rapidement chaque détail de ce que, depuis des années, elle avait en tête. Mais Myriam n'a pas pleuré. Elle n'a pas compris tout de suite ce qui lui arrivait. Sa fille l'a conduite doucement au centre de l'assemblée. Elle a reconnu alors les visages qui l'entouraient. Tout le monde riait. Sa fille, en face d'elle, prit alors la parole. « Maman, je sais que je prends un risque considérable en te faisant vivre ce moment. Mais comprends bien que c'est dans ton intérêt uniquement que nous avons organisé cette journée. Voilà des années que tu prépares cet événement grandiose d'une super production à laquelle, par définition, tu ne seras pas vraiment convié, en tout cas pas en mesure de pleinement l'apprécier. Alors nous avons décidé de te l'offrir de ton vivant. Nous avons choisi de te faire vivre ce moment qui t'obsède et tu pourras enfin passer à autre chose. » Voilà comment, le temps d'une après-midi, Myriam vécut ses funérailles. Bien entendu, il manquait l'essentiel. La mort n'était pas au rendez-vous. Et la vie, ce jour-là, lui faisait le plus puissant des pieds de nez. Certains trouveront cette initiative extrêmement malsaine ou totalement déplacée. Myriam aurait pu s'effondrer ou même succomber à cette surprise qui lui avait été concoctée. Mais elle m'en a parlé, au contraire, comme la chose la plus extraordinaire qui lui soit arrivée. Comme un adieu à la femme qu'elle avait été, il lui a semblé que pourrait peut-être commencer à cet instant précis le reste de sa vie.